Radio G 101.5 FM.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Bienvenue à tous sur Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission d'infoculture tous les mercredis de 19h à 20h. Ce soir, une émission qui doit s'animer à trois. Donc, Olivier à la technique et donc Pablo, heureux de te retrouver.
Bonjour à toutes et tous. Salut Olivier. Voilà pour une petite chronique philo tout à l'heure.
Super. Adrien donc va bientôt nous rejoindre et comme d'habitude à 7h, on va commencer par un morceau de musique, en l'occurrence les Talking Heads avec Psycho Killer. Cool. Tout de suite sur Radio G 101.5.
La radio qui fait le point.
Run, 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 run
c'était les Psycho Killers. Alors, une chanson de 1975. Et Adrien vient d'arriver. Coucou Adrien, on est heureux de te retrouver.
Salut Adrien.
Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver aussi. Navré pour le petit retard.
Ah bah, ça arrive, hein. L'important c'est que tu sois là.
Eh ben oui.
Alors pour continuer, on a en fait un quatrième chroniqueur qui est présent avec nous, mais qui n'est pas physiquement présent, mais qui est moralement présent avec nous. C'est Héloïse qui nous a fait une petite chronique. Donc on va écouter Héloïse. Alors tout d'abord, un jingle. Et c'est parti pour la chronique d'Héloïse.
Bonjour à tous, c'est Héloïse, et aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de vous faire une chronique spéciale jeux vidéo. Le 24 septembre, Nintendo a fêté ses 131 ans. Mais c'est pas tout, on a aussi fêté les 35 ans de Mario. Et à cette occasion, Nintendo, avec son Nintendo Direct, elle a prévu quelques surprises pour cette fin d'année pour les adorateurs du plombier moustachu. La première surprise, c'est la sortie de Super Mario 3D All-Stars. Donc c'est la bonne nouvelle pour tous les rétro gamers qui nous écoutent. Les jeux Super Mario 64 sortis sur Nintendo 64, Super Mario Sunshine sorti sur GameCube et Super Mario Galaxy sorti sur Wii sont sortis ce 18 septembre dernier. Comme vous pouvez l'imaginer, je l'ai acheté, j'y joue actuellement et je suis en adoration. Non seulement parce que les jeux Super Mario, c'est vraiment les jeux de mon enfance, mais les jeux, ils ont été remasterisés pour une expérience améliorée par rapport aux jeux de l'époque, sans avoir à brancher sa vieille console pour y jouer. Je note pourtant deux bémols. C'est qu'à l'époque où le rétro gaming et les remasters, ils sont à la mode, donc FF qui a été remasterisé, Crysis en partie, etc., ça aurait été vraiment appréciable d'améliorer les graphismes de Super Mario 64, et surtout la caméra de l'enfer dans ce jeu. C'est vraiment difficile d'y jouer en ayant une caméra qui répond pas du tout. Voilà, c'est le seul petit bémol que pour l'instant je peux relever sur le jeu in-game. Et le deuxième bémol, et c'est à noter pour tout le monde, c'est que le jeu, c'est une édition limitée, disponible jusqu'en mars prochain. Donc à vos porte-monnaie pour l'acheter. Deuxième annonce de Nintendo, le jeu Super Mario 35. Donc c'est un jeu en mode Battle Royale, où 35 joueurs s'affrontent pour savoir lequel pourra franchir les niveaux du jeu en premier, et seul le dernier survivant sortira vainqueur. Ça sortira le 1er octobre pour les joueurs ayant le Nintendo Switch Online et c'est jouable jusqu'au 31 mars 2021. Ça fait penser à un jeu un peu comme Tetris 99 ou plus récemment Fall Guys dont je vous parlerai dans une prochaine chronique parce que je suis en amour de ce jeu. Troisième annonce, le jeu Super Mario 3D World Plus. Donc c'est un jeu qui était sorti à l'origine sur la Wii U dont peu de personnes ont pu jouer parce qu'en fait... la console Wii U s'est très mal vendue, mais vous allez désormais pouvoir y jouer avec une nouvelle version qui sera disponible le 12 février 2021. Quatrième et dernière annonce, le jeu Mario Kart Live Home Circuit. Donc l'idée elle est simple, c'est avec des voitures téléguidées, on peut recréer des circuits du jeu Mario Kart, mais dans la vraie vie. Donc on allume son jeu, on joue, et les voitures disposées dans notre salon, elles suivent le mouvement de son kart in-game. Ce sera dispo le 16 octobre prochain, et j'avoue que ça pique un petit peu ma curiosité. Voilà, pour résumer, Nintendo, il nous a régalé pour les 35 ans de Mario. J'espère que ça va annoncer aussi d'autres sorties avec d'autres jeux. En tout cas, pour l'instant, je suis super contente de ce qu'ils nous ont annoncé, même si je comprends pas trop l'idée d'avoir des jeux qui sont limités dans le temps quand on les achète. Mais voilà, Nintendo doit avoir son idée derrière la tête sur pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Enfin voilà, ça fait toujours plaisir et j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi à y jouer. Je vous retrouve pour une prochaine chronique. Salut!
Salut Héloïse!
Salut Héloïse! Et moi je rebondis sur ce qu'elle a dit à la fin parce que moi aussi j'ai également joué un jeu à un massivement multiplayer en ligne qui s'appelle Destiny 2. Et donc on achète du contenu, comme elle l'a dit à la fin de sa chronique, et là, après deux ans, il nous retire une partie du contenu pour nous en mettre de nouveau, mais qu'il va falloir acheter. Ah. C'est-à-dire qu'on paye pour un contenu, enfin c'est ce qu'on appelle des DLC en plus, qui viennent compléter le jeu, on paye pour ça, il nous le retire et on doit racheter une autre partie. Enfin, bref, tout pour le fric.
C'est spécial. Ouais,
Oh non, c'est pas l'esprit, j'imagine.
Non.
Alors maintenant, c'est la chronique attendue de Pablo. Donc, jingle.
Yo les bandes geek, Ça fait plaisir de vous retrouver en direct d'Angers, en direct de Radio G 101.5. On va continuer notre voyage cérébral à travers la philo. Donc je vous propose soit un conte philosophique, soit une série philo, ou encore un petit ciné-philo. Voilà, à vous de choisir, à vous de choisir, à vous de choisir.
Alors aujourd'hui, nous sommes donc sur le troisième volet en fait de Game of Thrones, donc une interprétation philosophique de la série Game of Thrones. Cette fois, nous allons parler de Arya, Brienne, Daenerys. Peut-on être une femme puissante dans un monde d'hommes? C'est parti.
You're a Stark of Winterfell.
No one. I don't believe that. You don't believe that. You'll never be one of us, Lady Stark.
There is only one thing we say to death. Not today.
A girl is Arya Stark of Winterfell. And I'm going home.
How did you get back to Winterfell?
It's a long story.
Alors, un petit extrait en fait, une petite compilation des divers moments du parcours d'Arya Stark et on va en parler. Alors, dans le royaume en fait des sept couronnes de Westeros, le pouvoir est patriarcal, la transmission est masculine, l'éducation est gérée par les valeurs et les normes sociales qui sont portées par les hommes, sauf peut-être à Dorne, chez les Martell, où une certaine égalité entre hommes et femmes semble acceptée. Cette égalité, on la trouve évidemment chez le peuple libre d'au-delà du mur, ceux que les civilisés appellent les sauvageons. J'en avais parlé dans la première chronique sur Game of Thrones, rappelez-vous, le 9 septembre. À Essos, à l'Est, l'esclavagisme règne au sein des cités autonomes. Le statut des femmes est encore plus précaire. À Westeros, si l'esclavagisme a été aboli, les femmes restent cantonnées à des rôles subalternes, traditionnels, enfermées dans des stéréotypes. Leur seule façon d'acquérir le pouvoir est de jouer avec leurs armes, sexe, séduction, procréation, de jouer le jeu du pouvoir masculin, de devenir des hommes, ou pire que des hommes, dans certains cas, et dans la conquête du pouvoir et du jeu des trônes. C'est le cas de Cersei Lannister, c'est ce qu'elle expliquera à Sansa lors de la bataille de la Nera, fin de la saison 3. C'est aussi le cas d'Olenna Tyrell, interprétée par l'actrice Diana Rigg, qui vient de nous quitter. C'est le cas d'Elyanna Sand et de ses filles à Dorne, de la jeune Lyanna Mormont à l'île des Ours dans le Nord, ou encore de Yara Greyjoy aux îles de Fer. Et ce sera le cas de Sansa Stark tout au long de la série. Mais d'autres femmes ont fait d'autres choix et proposé d'autres voies de reconnaissance et d'émancipation. Brienne de Torf, Arya Stark ou Daenerys Targaryen. Des voies alternatives, souvent subversives, dans l'ordre patriarcal. Elles vont conquérir la puissance plutôt que le pouvoir. Des voies de puissance transgenre, dans le cas de Brienne et d'Arya. Une voie plus ambiguë entre puissance et pouvoir dans le cas de Daenerys. Le pouvoir, c'est la faculté d'exercer sur un homme ou des hommes une domination telle que l'on obtienne une obéissance ou un certain comportement souhaité. Il est lié à un statut, à des signes extérieurs de pouvoir donc. Quant à la puissance, qui semble proche du pouvoir, elle est différente. C'est une capacité interne du sujet à agir et à modifier la réalité. C'est une énergie ou force vitale qui n'a pas besoin d'autrui, qui n'a pas besoin de témoins ou de signes extérieurs pour se manifester. Elle s'exprime et irradie, c'est tout. Ainsi, on distinguera le pouvoir de la force policière des manteaux d'or, ou le pouvoir d'un monarque tyrannique comme Joffrey Baratheon Lannister, dans la série, On le distinguera de la puissance d'un discours de Tyrion ou la puissance du corps nu de Daenerys sortant des flammes. Ainsi, peut-on être une femme puissante dans un monde où le pouvoir est masculin ? Ou est-on contrainte et contraint à jouer le jeu du pouvoir masculin afin d'être reconnue ? Nous verrons trois parcours de libération féminine, de la femme objet à la femme sujet. Commençons par parler de l'attitude subversive d'Arya et de Brienne. Elles sont singulières. Elles refusent la séduction hétérosexuelle et le rôle de reproductrice du statut de lady. Et elles assument pleinement leur côté brut ou homasse, entre guillemets bien sûr. Arya a une quête personnelle, la vengeance. Brienne cherche la reconnaissance. Là où sa prétendue laideur l'a fait mépriser et railler des hommes, elle cherche à obtenir leur respect, voire leur admiration. Brienne incarne la loyauté et le professionnalisme chevaleresque, vertu souvent identifiée comme masculine. Mais elle incarne aussi la sensibilité et la compassion, qui sont des vertus souvent identifiées comme féminines. Elle incarne le courage, l'habileté et la force physique, mais aussi la philosophie du care, care en anglais, qui veut dire soin, elle est donc paradoxale, c'est pleinement un personnage paradoxal. Le care, the to care en anglais, est une philosophie contemporaine nord-américaine, basée sur le soin porté à autrui, l'attention, et le souci de l'autre. L'idée étant de ne plus cantonner cette approche aux sphères féminines, ni au lieu de la famille, et de l'hôpital, mais de l'ouvrir à toute la société, à la morale, à l'économie et à la politique. Il apparaît que là où Arya se place sur le terrain plutôt de l'égoïsme, d'une vengeance personnelle, Brienne, elle, emprunte le chemin de l'altruisme. Cependant, toutes les deux doivent sacrifier leur ego momentanément afin de pouvoir réaliser leur objectif. Devenir une tueuse sans visage pour Arya, devenir une chevalier officielle pour Brienne. Arya Stark fait partie des personnages qui ont une trajectoire initiatique dans la série ou les romans. Elle va quitter l'enfance rebelle et boudeuse pour un monde adulte cruel et cynique, et très jeune, va se mettre à l'école de la violence qui l'entoure. Elle va apprendre de la violence. Elle va apprendre la violence. Enfant, elle s'ennuyait dans les cours de Lady, elle s'ennuyait dans les cours de couture qu'on voulait lui faire jouer. Elle détestait ses cours. Elle s'entraînait secrètement au maniement des armes et ne rêvait que de s'entraîner au combat. Son frère Jon Snow le sait et lui offrira une petite épée spécialement forgée pour elle qu'elle nommera Aiguille. Son père, Eddard Stark, bien qu'attaché aux valeurs traditionnelles du royaume, se résout à sa personnalité de garçon manqué. Il lui offre des leçons d'escrime. Son maître d'armes s'appelle Sirio Forel. Il vient d'Essos. C'est la première rencontre avec la cité libre de Braavos et le dieu multiface qu'il lui enseigne, qui n'est autre que la mort à laquelle il faut se préparer sans cesse, mais à qui il faut dire lorsqu'elle se présente à vous « Not today », pas aujourd'hui. Avec Sirio Forel, elle apprendra le maniement de l'épée, des déplacements furtifs et la magnifique danse de la pluie. De plus en plus, Arya est confrontée à la violence et à l'injustice. Autant d'événements traumatiques qui vont inscrire dans son âme, sa soif de vengeance. Héraclite d'Éphèse, philosophe antique du 5e siècle avant Jésus-Christ, disait que la violence est le résultat d'antagonismes, de forces cosmiques opposées. Il disait, deux points ouvrez les guillemets, « conflit est père de toute chose ». Fermez les guillemets. En effet, nous constatons des oppositions, des combats entre le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres, le feu et la glace, le bien et le mal, le juste et l'injuste, la paix et la guerre. D'ailleurs, nous ne voyons à notre niveau qu'un aspect de ces contraires en lutte. Or, l'ensemble est constamment en mouvement, en devenir et en lutte, et se résout au final, selon le philosophe, dans une unité appelée harmonie. C'est ainsi que polémos, conflit, guerre, querelle, polémos, conflit, donc effectivement guerre, querelle ou discorde, est le principe de tout mouvement cosmique et de toute génération de la vie. Et on retrouve ici, encore une fois, la dialectique du même et de l'autre. Par exemple, la justice met fin à l'injustice. Dans un autre fragment conservé d'Héraclite, il dira « S'il n'y avait pas d'injustice, on ignorerait jusqu'au nom de la justice. » D'ailleurs, c'est une leçon que Tyrion nous enseigne et enseigne à Daenerys face au fils de la Harpie à Meereen ou face au Lannister à Port-Réal. On ne fait pas la paix avec ses amis, mais on fait la paix avec ses ennemis. De même que l'accord des esprits dans le dialogue suppose la discorde des opinions. Et plus tard, bien plus tard, un certain Nietzsche dira cette magnifique phrase dans Ainsi parlait Zarathoustra, qui résonne avec la danse de la pluie d'Arya. Il dira « Il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. » Arya s'est constituée une death list, à l'instar de la mariée dans le film Kill Bill de Quentin Tarantino. Cersei Lannister, Geoffrey Lannister, responsable de la mort de son père. Ellen Payne, bourreau de son père. Le limier, Sandor Clegane, responsable de la mort de son meilleur ami, de son ami d'enfance. Meryl Trent, l'assassin de son maître d'armes. Walder Frey et toute sa maison masculine, et bien sûr les Bolton, à cause des noces pourpres. Mais qu'est-ce que la vengeance, me direz-vous? La vengeance repose sur une réaction individuelle. Lorsque nous avons été atteints dans notre corps ou celui de nos proches, dans nos biens, dans notre honneur, elle est d'origine passionnelle, donc irrationnelle, même si elle devient rationnelle ensuite dans sa réalisation stratégique. C'est pourquoi on dit souvent « la vengeance est un plat qui se mange froid ». Enfin, elle est disproportionnée par rapport à la peine originelle et entraîne le sujet dans une spirale de reproduction de la violence sans fin. Alors la question n'est pas de savoir pourquoi la vengeance ici, mais plutôt de savoir pourquoi aimons-nous autant voir s'exercer la vengeance. Pourquoi nous fascine-t-elle autant à l'écran ou au théâtre? Je vous propose deux hypothèses. La première, si nous aimons autant voir s'exercer la vengeance, c'est parce que la justice parfaite est trop souvent idéale, alors que celle à laquelle nous accédons ici-bas est imparfaite et impure. Il est évident que l'on préfère avoir la justice et voir la justice triompher. Mais à défaut, la vengeance satisfait notre sentiment de justice et notre pulsion de violence. Deuxième hypothèse, si le spectacle de la vengeance nous intéresse autant, c'est qu'elle est cathartique. Elle nous permet de vivre et d'exercer la violence par procuration à travers les personnages et de nous en soulager. Ainsi, pour se venger, Arya va apprendre à devenir personne, une fille qui n'a pas de nom. Elle va devoir renoncer à son identité, à son ego, et ainsi devenir une redoutable assassine sans visage, servante du dieu multiface, la mort, dans la maison du noir et du blanc, à Braavos, auprès de Jaqen H'ghar. Elle va même devoir, comme les héros tragiques, passer par une mort et une renaissance. Mort et renaissance qui serait symbolisée pour elle par la perte de son visage et de la vue, le combat à mort contre sa rivale, avant de retrouver son identité. Elle dira pour finir « Une fille est Arya Stark de Winterfell et je rentre chez moi ». Saison 6, épisode 8. Pour terminer, quelques mots sur la fascinante Daenerys Targaryen, dite l'imbrûlée, Khaleesi et mère des dragons. Il y aurait bien sûr à dire énormément sur ce personnage. Contentons-nous pour l'instant de la comparer dans sa trajectoire à Sansa Stark.
sa trajectoire est pour toutes deux la conquête de leur liberté. D'esclaves ou de femmes objets, elles vont devenir femmes sujets, vont gagner en puissance et conquérir le pouvoir. Toutes les deux ont subi un viol nuptial lors de leur nuit de noces. Sauf que la brute Drogo, le Khal des Dothraki, ne veut pas dégrader Daenerys. Il la possède de force car il ne la voit pas comme un sujet moral, mais simplement comme un objet de possession, au même titre que ses chevaux. Alors que Sansa est humiliée volontairement par le psychopathe Ramsay Bolton, qui veut la dégrader, la rabaisser de sujet, femme et dame de Winterfell, à un simple objet de sa jouissance et de son sadisme torsionnaire. Ainsi, le viol se fait dans la position de la levrette. Excusez-moi, mes amis. Celle-ci sera remplacée par Daenerys par une position face à face où les deux amis se regardent dans les yeux à égalité. On le voit dans la saison 1, épisode 2. La puissance de la Khaleesi culmine lorsqu'elle devient Mysa, la mère du peuple libéré, la briseuse de chaînes, libératrice des esclaves, lorsqu'elle est entourée de sa Dream Team, de Tyrion, Varys, Missandei, Vergris, Jorah Mormont, Sœur Baristan, Daario Naharis, son amant. Mais elle décline lorsqu'elle veut à tout prix conquérir le pouvoir et s'asseoir sur le trône de fer. C'est ce qui la rend tragique et ambiguë. Merci de votre écoute.
Un grand, grand, grand merci, Pablo. C'était vraiment très, très bien.
Je vous remercie.
Alors,
merci, Pablo.
Pour pouvoir faire une transition, parce qu'elle va être difficile à faire, On va commencer par on va remettre un petit peu de musique avec le groupe Escobar et qui met Someone New.
Yes.
C'est parti sur Radio G 101.5.
La radio qui fait le point. So it's a goodbye. Is it time to set you free? Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? We used to take time to cover up the pain. And deep below it burns, and the feeling still remains. You're gonna find someone new. Sorrow, another day will dawn.
I love you.
C'était Escobar, alors pas Pablo, hein, mais bien le gros. Alors pour poursuivre, c'est Adrien, son drogue, retour, hein, ça, le fait, grand retour.
Attention, je suis bien content de retrouver Bon Geek Mafia.
Alors attention, jingle.
Alors on va, on va rester en fait dans l'actualité télévisuelle, ciné-série plutôt série, et pour faire une petite transition avec Pablo, on va citer l'historien grec antique Thucydide qui nous expliquait qu'il était dans la nature de l'homme d'opprimer ceux qui cèdent et de respecter ceux qui résistent. Et la série dont je vais vous parler ce soir, c'est une série de résistants modernes fictifs, certes, puisqu'on va aborder finalement la némésis totale du Marvel Cinematic Universe ou de la Justice League de DC Comics. On va parler de la série The Boys sur Amazon Prime, à l'occasion du coup de la sortie de la saison 2 depuis le mois de septembre, puisque 2020 est une année particulière, n'est-ce pas? Et Noël est arrivé en septembre pour les fans de la série, avec la sortie de 3 épisodes, suivis maintenant tous les vendredis de 1 épisode par semaine. Alors c'était sans doute la série la plus attendue de la rentrée côté Amazon Prime, puisque la saison de The Boys risquait très très gros. Après une première saison qui présentait de manière ultra efficace son univers, ses personnages et surtout son ton pour le moins irrévérencieux, adulte et vraiment joyeusement gore, il lui fallait à présent retenir son public, se renouveler, s'en dérouter, ouvrir des pistes et en refermer d'autres, tout en restant dynamique, compréhensible, sans être prévisible et surprenant, tout en n'étant pas trop déroutant. Bref, il lui fallait réussir cette fameuse deuxième saison sur laquelle tant de séries se cassent les dents. Alors au bout des 5 premiers épisodes sur 12, le bilan est un petit peu contrasté. Alors même si on retrouve toujours avec le même plaisir l'univers, les personnages et l'humour caractéristique de la série, sa réussite ou son échec va dépendre beaucoup de la manière dont les scénaristes vont parvenir à faire retomber sur leurs pattes des intrigues très nombreuses, très éclatées et peut-être pas toujours aussi passionnantes qu'on pourrait le penser. Alors si jamais vous aviez manqué sa première saison, ce qui serait un tort hein, vraiment selon moi, rappelons que le principe aussi simple que génial de The Boys est le suivant. S'il existait réellement des personnes dotées de pouvoirs surhumains dans notre monde contemporain, pensez-vous qu'il s'agirait d'idéalistes soucieux de faire le bien de manière incognito? Eh bien non, bien entendu. Ce seraient des employés de Apple, Facebook, d'une grande corporation capitaliste qui utiliseraient leur pouvoir et leur popularité pour la plus grande satisfaction de leurs actionnaires, et ils seraient surtout tous complètement maboules, désaxés, incapables de sens moral du fait de leur quasi-invincibilité. Après tout, dites à un humain qu'il peut faire n'importe quoi, et ben, généralement, il le fait. Hein.
C'est ça.
Ainsi, des Seven, sortes d'Avengers décomplexés et emmenés par Homelander, dont l'acteur c'est Anthony Starr, hein, qui a été vu dans Banshee, qui est une véritable révélation de The Boys. Un Superman complètement psychopathe, sadique, pervers narcissique, et qui a une addiction particulièrement dérangeante pour le lait maternel. Face à eux se dresse tant bien que mal un groupe hétéroclite d'anti-héros cabossés, emmené par Billy Butcher, c'est-à-dire Billy le Boucher, incarné par un jamais autant charismatique Karl Urban, ancien des forces spéciales, prêt à tout pour arracher leur masque aux super, pas vraiment héros. La première saison avait utilisé un artifice vieux comme le monde pour accompagner les spectateurs. De chaque côté de la barrière, un nouvel élément, était introduit dans le groupe en même temps que lui. Par exemple, du côté des Seven, il s'agissait de Starlight, Stella, jouée par l'actrice Erin Moriarty, une jeune super-héroïne aussi blonde que naïve, au moins au début de la série, puisqu'après elle devient méchamment badass, et seule dans ce panier de crabes à vouloir réellement faire le bien. Une mouche passe. Un ange passe. Du côté des Boys, la bande emmenée par Billy Butcher, on assistait à l'initiation de Yui, joué par le super acteur Jack Cade, qui est le fils de Kate, ton papa, qui est un super acteur aussi. Un jeune homme banal et traumatisé par la mort ultra-violente de sa fiancée. Pour vous faire une petite image, il est en train de la prendre dans ses bras, langoureusement dans la rue, quand l'équivalent de The Flash est passé à la vitesse supérieure du son, et il n'avait plus que les mains de sa fiancée dans les mains, le reste du corps étant pulvérisé, étalé sur la chaussée.
Quand on dit croiser la route, de quelqu'un, des fois c'est pas forcément très bien.
Voilà. Alors le mécanisme fonctionnait à merveille, on découvrait personnalité et intrigue dans chaque camp, en même temps que ses personnages. aussi peu au courant que nous, au final. Mais une fois cette longue exposition terminée et réussie, qui était la saison 1, et ben maintenant il faut relancer la machine et avancer tant bien que mal dans le second acte. Alors du côté des Seven, au début de cette saison 2, l'arrivée d'un nouveau personnage vient donner un véritable coup de fouet à la série et se révèle pour l'instant le principal atout de cette reprise, Stormfront, jouée par l'actrice Aya Cash, déjà merveilleuse dans You're the Worst, dans un tout autre registre, qui est la nouvelle super-héroïne imposée aux Seven par le directeur de la multinationale qui les emploie. Au passage, il est interprété par Giancarlo Esposito et il est vraiment un tout petit peu à peine moins flippant que dans Breaking Bad. Alors, rompu aux arcanes des réseaux sociaux et de l'influence, au moins autant qu'à celle du meurtre de masse électrocinétique, elle se présente comme féministe et progressiste, mais s'avère rapidement aussi ambitieuse, cruelle, perverse et violente. Vraiment violente que son pendant qui était le leader jusque-là des Seven, Homelander. Encore une fois, le mécanisme est connu mais fonctionne parfaitement. Une fois établie la puissance du principal méchant, le Homelander, le super Superman croisé avec Captain America version démoniaque, et la position de faiblesse des protagonistes face à lui, on introduit dans l'équation un nouvel élément dans son propre camp qui vient grignoter sa suprématie et se positionner en opposant d'un nouveau genre encore plus haïssable que lui-même si c'était possible. Imaginez Donald Trump en femme. 3 fois plus acariâtre, 2 fois plus méchant et 1 fois et demi plus perverse.
Ouais. Donald Trump en pire. C'est ça. Version féminine.
Avec des super pouvoirs.
Voilà.
Personnification de ce que l'Amérique suprémaciste Trumpiste ultra connectée pourrait être de pire si on lui donnait des super pouvoirs. Stormfront est ce qui pouvait arriver de mieux à la série. Un véritable antagoniste alternatif faisant monter encore plus haut des enjeux que l'on pensait déjà tutoyer des sommets. Car oui, même le capitaliste meurtrier et ultra cynique des Seven d'Homelander peut être concurrencé par encore pire que lui, et l'affrontement entre ces deux dystopies cauchemardesques est l'un des principaux intérêts de la saison. Parce qu'en fait, le personnage a aussi le mérite de nous ramener dans l'équation tout le petit côté évangélique sympathique qui est rétrograde et réactionnaire, tout comme on l'aime pas aux États-Unis.
Faudrait-il y voir une critique
Je pense qu'on peut.
C'est clair.
Alors malheureusement, dans la série, la saison 2, tout n'est pas aussi convaincant que dans les premiers épisodes. Hein. Les scénaristes semblent s'être évertués à écrire une intrigue développée pour chaque personnage, quitte à mettre en péril un petit peu l'équilibre de l'ensemble du fait du nombre de personnages finalement tous à égalité. On se retrouve finalement devant une multitude de petites séquences qui font avancer en parallèle des intrigues pour l'instant insuffisamment cohérentes. Les liens entre Billy Butcher et Homelander à travers l'ex-femme du premier et son fils né du viol, enfin bref, par le principal méchant, donc avec un jeune Superman en devenir, les affrontements larvés au sein de l'équipe des gentils, entre guillemets, le destin d'une Kimiko qui est une soups, comme ils disent, une super-héroïne, mais en fait, qui est le fruit, pareil, d'une histoire absolument dramatique, le double rôle, le rôle d'agent double finalement de Starlight, qui est à la fois l'amante d'un des gentils et en même temps qui est dans le camp des Seven. Enfin, on a quelques petits trucs intéressants. La descente aux enfers de The Deep. Ça, c'est...
Oui, alors lui,
dans
lui,
la saison 1, c'était l'élément comique, c'est juste génial.
Ouais.
J'en dirai pas trop pour pas vous spoiler. En tout cas, c'est l'équivalent d'Aquaman, mais version total loser.
Version loser.
Version total loser, 100% violeur, et il aurait mieux fait de rester dans un aquarium. Enfin bref, on a aussi donc le sort de A-Train, qui est l'équivalent de The Flash, hein, qui avait fait une overdose dans le premier. Et on a aussi l'outing de Queen Maeve, qui est l'équivalent de... l'équivalent
c'est Xena la guerrière,
Xena la guerrière Wonder Woman, mais version en pleine dépression.
D'accord. Ah,
oui.
Et donc, alors tout ça se dirige certainement vers un final cohérent et explosif, mais pour l'instant on avance en ordre dispersé et ça laisse finalement assez peu de temps pour développer les personnages, donc c'est un poil frustrant. Mais on va voir. Alors que les fans se rassurent, hein, les qualités fondamentales de The Boys sont toujours là, la série est toujours très drôle, l'humour noir et le mauvais esprit satirique sont toujours aussi réjouissants, les effets spéciaux, toujours aussi gore ou pas, sont peut-être un peu inégaux, mais toujours très efficaces. Et évidemment, on a à la réalisation et à l'adaptation Irip Kripke, Evan Goldberg et l'excellentissime Seth Rogen. Et donc, ils n'hésitent pas à s'éloigner considérablement du matériel d'origine, hein, du comics, ils nous livrent une série dont ils respectent l'ADN, qui est aussi respectable que respectée, du coup, dans cette deuxième saison. Alors, ce serait... la saison 2, pour le moment, joue un dangereux rôle d'équilibriste, mais vraiment, on lui souhaite de retomber sur ses pieds et en bon état. Et j'ai très, très hâte de voir le 7e épisode, puisque là, je viens tout juste de regarder le 6e avant de venir, et vraiment... J'en dirai pas plus parce que je vais spoiler complètement, ce serait dommage.
Alors moi je viens juste de la découvrir, donc d'ailleurs j'avais prévu peut-être de vous en parler un petit peu, parce qu'en fait moi je l'ai regardé saison 1, je suis actuellement sur la saison 2 aussi.
Donc j'ai bien fait de regarder.
Je trouve un véritable plaisir, c'est en fait les super-héros, moi ça me laisse toujours un petit peu sur ma faim, parce qu'en fait le côté gentillet formidable, on se dit tout le temps c'est formidable, mais ça n'est pas proche de ce qu'on peut attendre de la réalité, parce que dans la nature humaine, à chaque fois que les gens ont et du pouvoir et des choses, ils l'utilisent souvent à des fins qui sont totalement personnelles, et bien là c'est revendiqué. Et ce que j'aime bien, c'est ce côté absolument ignoble de certains super-héros, mais en même temps comment ils se font. Ils sont adulés par la population parce qu'effectivement, ils sont ignobles.
Ils ont
deux facettes. Le côté faire le public où ils sont absolument magnifiques, superbes, avec des mises en scène. Même leurs faits d'armes sont filmés comme une série de NRJ 12. Ils sont beaux comme tout. Et puis, dans la réalité, c'est absolument ignoble. Et je trouve ça.
Et ignoble est un faible mot.
Ouais, et je trouve ça vraiment jubilatoire parce qu'on retrouve véritablement de ce que serait un super-héros, pour ma part, s'il était vraiment un humain complet et avec l'utilisation de ses pouvoirs.
Avec sa complexité.
Avec toutes ses dissonances cognitives pas gérées.
Voilà, et toute sa contradiction. Et c'est vrai que dans ce que vous dites, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on retrouve cette distinction entre le fait de posséder une puissance et tout d'un coup d'accéder à un pouvoir, ce pouvoir que les autres vous donnent par le capitalisme ou par l'action, par l'argent, et du coup en fait d'en être corrompu en fait.
Complètement, mais la thématique de la corruption est présente d'ailleurs à tous les points de vue.
Et effectivement, on retrouve par exemple, alors il y a une multinationale qui gère tout ça, et cette multinationale en fait, les gens qui travaillent dedans sont bien inférieurs au niveau pouvoir à ces gens-là, mais leur apportent tellement de gloire, qu'ils travaillent en collaboration.
Et un surplus de pouvoir finalement.
Ouais, c'est ça, et un surplus de pouvoir. Et c'est vraiment très drôle parce que même ils s'accrochent à leur image de façon. Parce qu'ils surfent dessus sur leur notoriété de façon à obtenir encore plus de pouvoir, plus de reconnaissance et accéder au Saint Graal, c'est-à-dire faire partie des sept.
C'est ça. Et ce qui est amusant, c'est que c'est dans cette dynamique, finalement, donner du pouvoir par les gens normaux, finalement, via la multinationale. Même le plus puissant d'entre eux, le Homelander, véritable dieu vivant sur Terre. Est totalement dépendant finalement de l'opinion que les autres peuvent avoir de lui. C'est-à-dire que même le plus puissant finalement n'est rien comparé à la puissance de l'opinion, parce que il pourrait tous tuer. D'ailleurs, à un moment, on le voit, il rêve
de trucider tout le monde.
Parce que ce sont des gens qui le contredisent en public. Mais il ne peut pas le faire parce qu'il pourrait être le dernier sur Terre, mais ça ne lui apporterait plus rien.
Et finalement,
il y a la solitude du pouvoir et de la perversion qui est amusante puisque les personnages sont finalement torturés et brisés en permanence. C'est vraiment sympa. Et alors, ce qui est quand même cette critique au vitriol de la société de médias et d'opinion américaine, mais alors elle est au vitriol particulièrement costaud, elle est financée par Amazon et Jeff Bezos, qui est quand même l'homme le plus riche du monde. Voilà, on se dit
l'un des GAFAM.
Pas des moindres. Donc c'est ça qui est quand même amusant. Et moi j'avais envie de terminer cette petite chronique pour boucler la boucle avec Thucydide, toujours dans les guerres du Péloponnèse, qui avait expliqué après avoir relaté les batailles entre Athènes et Sparte, qui disait que le fort fait ce qu'il peut faire et le faible subit ce qu'il doit subir. Ça résume bien la série.
Absolument.
En tout cas, merci beaucoup Adrien. J'espère que allez bien apprécier, regarder cette série, autant qu'on l'a appréciée d'ailleurs. Et on vous invite vraiment à la découvrir.
Et surtout, c'est une série qui change.
Oui, c'est clair.
Ouais, grave.
Bon, eh bien, au vu du temps, on va peut-être commencer directement le petit quiz.
Avec grand plaisir.
Si ça vous intéresse. Alors, attention.
On aura la musique.
Au taquet.
Jingle.
Quelle est la femelle du lièvre?
La mère noire.
La levrette.
Oh, c'est ce que.
Et oui,
en accord avec ce que j'ai dit.
Et oui, c'est ça.
Trop fort.
On retrouve ce que tu as pu nous dire dans ta chronique. Alors, attention, c'est parti pour le quiz. Alors,
on a peut-être dû préciser qu'elle était interdite au moins de 18 ans.
Ouais, c'est ça. Bon, d'un côté, la série qu'on vous a fait découvrir, ne surtout pas la regarder avec des jeunes.
Ah,
on n'est pas dans le côté. On n'est pas dans le côté Marvel. Hein.
Non. Alors, il y a des cerveaux qui explosent en direct à la télé. On évite avec les enfants, s'il vous plaît.
Alors, donc le quiz aujourd'hui. le titre de la chanson ne contient qu'un seul mot.
Yo.
Est-ce que c'est clair les règles ou je les répète? Je répète pour le monsieur qui est à côté. Vous pouvez répéter la question? Alors, le titre de la chanson ne contient qu'un seul mot. Donc, il faut trouver le groupe et le, à la limite le titre. Mais
ok.
C'est parti pour le premier.
Alors, E n'est pas ma réponse.
Non.
Moi non plus, là, je sèche. Je l'ai sur le bout de la langue.
Alors, le groupe, c'est Tears for Fears et la chanson, c'est Shout.
Shout.
Ah, mais oui, t'aurais mis le refrain.
Alors, celle-là, interdiction de ne pas connaître.
Oh là, vas-y, Pablo.
Ah, c'est bon, jusqu'à la fin. Soul.
Ouais.
Arrête à Franklin.
Gagné avec le titre. Un seul mot.
Je sèche.
Respect.
Respect.
Arrête à Franklin. Oui. Ouais.
Joué. Alors attention. Troisième morceau, celle-là, française. On veut t'amener à renier tes erreurs. Il sèche complètement, notre Adrien.
Je sais, j'étais pas né. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que
le soir tu te couches sans aucun rêve en toi. Résiste.
Résiste.
Ah,
France Gall. France Gall.
Alors, que tu existes.
Celle qui va venir derrière, alors là, tu étais né.
Ah, plus d'excuses.
Donc là, il n'y a plus du tout. Toi,
t'es coincé.
Mince. In a world we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come.
Là, t'as perdu, t'as perdu.
Ah, mais non, mais je l'ai. Attends. Imagine Dragons.
Gagné.
Et Radioactive. Non, c'est pas Radioactive.
Non, c'est pas Radioactive.
C'est pas celle-là, c'est. Je sais plus le titre.
Eh ben, c'est Demons.
Oui, Demons, ouais.
Demons.
C'est sur le même album.
Ouais, c'est ça. Oh, bon, tu t'en sortiras pas avec ça. Hein. Allez, sixième, celui-là.
Je la connais.
Ah bah j'espère bien.
Oasis.
Gagné.
Et
un petit quoi boire.
Wonderwall.
Wonderwall, bravo.
Yes. Ah bah voilà.
Alors celle d'après,
travail d'équipe.
On est bon.
Celle d'après, c'est mes gars qui l'ont écouté, je sais pas combien de fois. Donc là, je vais être obligé de la mettre.
Voilà.
Attention. Laisse-toi tomber, retire ses chaînes. Ceux qui ont été jeunes. Gagné.
Alors il faut dire Maître Gims ou Gims maintenant.
Je sais pas. Faut même pas l'appeler.
Faut même plus l'appeler.
Alors Maître Gims, je serais incapable de dire les noms des chansons par contre.
Ah c'est Zombie.
Ah Zombie, ah. Mais oui bien sûr. Ouais.
Mais il n'aurait pas paraphrasé un petit peu Michael Jackson?
Ah oh, je pense qu'il y en a. Attention, celle-là, vous, toi tu connais. Je t'en prie. Seuls les gens qui me connaissent ont le droit de faire comme
ça. C'est violent comme ça, là, direct.
Comment il y va? Comment tu vas?
Effectivement, c'est Loser. Et le groupe, c'est c'est presque comme mon congélateur.
Je sais pas si tu m'aides là.
C'est Beko. Non, là c'est Beck. C'est le groupe Beck. J'ai honte.
Oui, là tu peux. Cache-toi, Olivier. Cache-toi.
Alors attention, restez dans la honte. On y va sur le celle d'après.
Oui, oui.
Non. Non, c'est pas celle-là.
Mais bon, quand même. Bon, help.
Alors, c'est qui ça?
Les Beatles.
Les Beatles, c'est
Help.
Help. Alors celle-là, là j'ai honte.
Aïe.
Ah, c'est pas un groupe.
Alors c'est un chanteur.
C'est un chanteur.
Oh, il a fait quelques tubes dans les années 80. Jean-Pierre.
C'est Jean-Pierre.
Madère.
Jean-Pierre, ah ouais, Madère, ah comme oui, la sauce.
Macumba.
Oh Macumba, Macumba. Macumba.
Attends, alors... tu veux pas la remettre un peu sur les auditeurs, il est bien dans la tête là.
Ouais, ouais, c'est ça.
On ne veut pas que
ouais,
du bien.
Voilà. C'est qu'il la garde un bon moment. Ils sont bien les 80.
Ouais. Je l'avais aussi dans la tête.
Ah mais j'ai pire après, je vous assure.
Oui, oui.
Ouais. Alors celle-là j'aime beaucoup moi. Sébastien là, il nous aurait donné la réponse.
Ouais, c'est clair.
Parle-nous.
Ah, c'est Van Halen. Le groupe Van Halen et sa chanson, c'est Jump.
Yes.
Okay. Alors là, on va, allez, on va encore en mettre une ou deux et puis après. Donc, qu'est-ce que je peux vous mettre de façon à ce que ça puisse passer? Oh, ça, normalement. C'est pas le titre, mais la chanteuse, quand même.
J'ai un peu honte, mais je connais.
Bah oui, quand même.
Madonna.
Gagné. Et le titre, alors là,
Frozen.
Gagné.
Ouais, il a pas vraiment honte,
genre. J'ai écouté quand même, voilà.
Allez, on va remonter un peu plus tard et c'est français.
Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feux d'artifice et de plomb. Ils ont oublié dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions.
À l'époque, il avait de la voix, le pépère.
Ouais. Ouais. Bah, il avait moins de boissons aussi, non?
Et c'est ça.
Il avait un foie, pardon. Ouais.
Et je suis encore debout. Bah,
donc Renaud.
Oui, c'est Renaud. Hexagone. Et la chanson Hexagone. Ah, celle-là, tu dois. C'est de ton époque.
Je dois.
Non.
Australienne.
Bah, je la connais la chanson, mais je l'ai associée à Rihanna dans ma tête, je sais pas pour quelle raison. Vas-y.
Sia.
Ah, ouais, Sia, c'est Sia, oui. Bravo.
Chandelier.
On va s'arrêter là-dessus.
Je m'en étouffe.
C'est dommage parce que j'en avais une, là, franchement.
Oh, vas-y, tu nous fais languir.
Allez, vas-y, tu nous fais languir, là.
Apprécie l'anglais.
T'arrives là.
C'est ça.
Alors, grande chanteuse française, mais des années 60, Sheila.
Ah, Sheila.
Et c'est Spacer. Mais alors, je vous assure, wow. Le français, c'est un grand moment. C'est français version I am happy to see you. C'est un grand moment. Ben voilà. Alors, on va.
Eh ben merci, Olive.
Ben merci trop beaucoup. Merci. On va faire une petite chanson, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne se fasse pas. Une petite chanson.
Bah, avec plaisir.
Et puis, donc, Skip the Use.
Ah, trop bien.
Avec Ghost.
Yeah.
Sur Radio G.
5.5, Radio G. Ghost keeping me alive. I get what it means. You have to survive. 8 o'clock in the morning. Too hard to give, too hard to live. I can't stop dreaming. Do you know what I mean? You make up your angry eyes, you stay hidden, but I see you smile. I wanna stay inside your arms, I want to feel fine. 20 minutes and I'm ready, it's not raining today. I'm late and I must hurry, welcome to my way. I don't wanna weather, so I'm sorry, it's not raining today. Kill the light, I can see. Tonight, ever
the scent this morning. Your kiss is on my skin. What's your game tonight? Will you talk to me? You know I need you to make it real. What they're saying to me, I gotta smile, smile, smile. Forget, forget, forget it, I'm on obey. Promise on my words, leave the gun outside. I got the words, let them blow your mind. It's a lie, lie, lie. I get what the story will be. You gotta try, try, try. Escape, escape, escape your miseries. Stop the motion, I got the solution. Wake up, wake up, sleep and get free.
C'était très sympa ton petit interlude musical, Olivier.
Ouais, alors on arrive sur la fin de l'émission. Donc déjà, tu voulais nous annoncer des petites choses.
Oui, des petites nouveautés vidéoludiques qu'il ne faut pas manquer en cette fin d'année 2020, puisqu'il y a quand même du positif en cette fin d'année 2020.
Donc bien. Il faut qu'on le trouve et qu'on l'annonce. Oui.
Alors premièrement, il y a évidemment les nouvelles consoles qui sortent, hein, PlayStation 5 et Xbox Series X et S, qui ont défrayé la chronique en fait avec le fait d'être sold out au niveau des précommandes juste à un moment de leur sortie. De la même manière que la nouvelle carte graphique d'Nvidia, la RTX 3080, qui 15 secondes après être mise sur le marché était sold out sur tous les revendeurs.
Mon Dieu.
Voilà. Et un autre super jeu vidéo qui s'annonce, qui va sortir en fin d'année pour les amateurs de RPG, d'univers de fantasy, amateurs des jeux de société aussi, Donjons et Dragons. Oh. On va avoir la sortie de Baldur's Gate 3 par le Larian Studio, qui nous a fait refaire les non moins excellents Divinity Original Sin et Divinity Original Sin 2. Et donc ils nous reprennent le hit historique absolument phénoménal qui était Baldur's Gate, la licence, pour nous offrir l'épisode 3 et qui s'annonce particulièrement épique. La bande annonce d'introduction en fait du jeu, des vidéos d'introduction du jeu est déjà disponible sur YouTube et je ne saurais trop vous indiquer d'aller voir ça rapidement.
Alors petite question, est-ce que d'après toi c'est parce qu'il y avait vraiment un contenu qui permettait d'avoir un troisième, ou est-ce qu'on essaye encore de surfer de façon à avoir le troisième qui permet d'amener de l'argent pour préparer le quatrième et ainsi de suite?
Alors non, c'est pas de l'argent, là c'est de la passion, parce que Baldur's Gate était une série qui était terminée et bel et bien terminée, et ils le reprennent pour le meilleur en tant que passionnés. Les développeurs sont des passionnés et ils le reprennent pour la passion. On l'a déjà vu avec les jeux qu'ils ont sortis, que Larian Studio a déjà sorti, et ça s'annonce pour le meilleur.
Eh bien, c'est déjà la fin de l'émission.
Super.
On va devoir se quitter, les gars.
Donc, merci Olivier, merci Pablo.
Merci beaucoup, merci les gars.
Et puis, merci les auditeurs, à très bientôt. À la semaine prochaine sur Radio G 101.5.
Chers auditeurs, à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Sur la radio qui fait le point.
Radio G 101.5 FM.